on est fournisseur de matériaux circulaires, de matériaux de construction circulaire. Et ce qu'on entend par des matériaux circulaires, c'est d'une part des matériaux de réemploi, récupérés d'un immeuble qui a été déconstruit, leur donner un second usage. Et c'est d'autre part des matériaux de surplus, démonter éventuellement avec un partenaire, les transporter, les reconditionner, éventuellement faire une certification qualité pour que les matériaux in fine soient livrés sur palette chez notre client, comme si c'était du neuf. Effectivement. Et en fait, tout ça, toute cette circularité, amener ça à l'échelle avec des grosses quantités, permet vraiment de réduire l'impact du secteur. C'est un levier énorme pour réduire vraiment l'impact du secteur de la construction.
Et si votre business pouvait changer le monde ? Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interview des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Aujourd'hui, je vous propose un épisode à trois, puisque je n'ai pas un, mais deux invités à vous faire découvrir. J'ai nommé Marc-Antoine et Barthélémy de Calatay. Alors, des deux ne sont pas frères, mais cousins. Ils vous expliqueront dans l'épisode d'ailleurs comment l'idée est née et comment il est apparu comme une évidence qu'ils devaient s'associer pour créer Coliseum. Alors, Coliseum, c'est une toute jeune entreprise spécialisée dans le réemploi de matériaux de construction. Alors, la construction, c'est un secteur qu'ils connaissent très bien, puisque Marc-Antoine est ingénieur en construction. Il a travaillé dans un grand groupe à l'international pendant 15 ans. Et Barthélémy, quant à lui, avocat de formation, a rapidement orienté sa carrière dans le secteur du bâtiment d'abord, pour ensuite être responsable des bâtiments, toute l'infrastructure chez Exki pendant de nombreuses années. Alors, s'ils ont voulu créer Coliseum, c'est pour faciliter le réemploi dans le monde de la construction et avoir de l'impact. Surtout et avant tout, on a parlé alors forcément de leur parcours, de leurs rencontres, de leurs défis, de la manière dont ils ont de l'impact aujourd'hui, de quelques projets concrets, mais aussi de chiffres dans le secteur, comme par exemple le fait qu'utiliser des matériaux de réemploi permet d'obtenir un bilan carbone 80% moins élevé qu'avec du neuf. Alors j'espère, comme toujours, que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout, surtout, partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bienvenue sur le podcast.
Merci pour l'invitation.
Donc, alors, je précise pour les auditeurs et les auditrices que nous sommes donc trois aujourd'hui, qu'on vient d'entendre deux voix. Est-ce que vous pouvez donc tous les deux vous présenter, nous dire qui vous êtes? Et déjà, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Mais merci beaucoup à toi pour ton invitation. On est très heureux d'être là. Je m'appelle Barthélémy de Calatay, et je suis le cousin de Marc-Antoine, qui est assis à côté de moi. Je viens d'avoir 40 ans.
Bon anniversaire.
Pas si près que ça. Ah. J'ai la très grande joie d'être marié depuis une grosse dizaine d'années avec une femme formidable et d'être le papa de trois garçons formidables aussi.
Chapeau.
Voilà. Et en termes plus professionnels, ma vie professionnelle, en fait, a été constituée de différents chapitres, assez différents les uns des autres. Et c'est ça qui me plaît, parce que moi, j'ai une nature très curieuse. J'ai été avocat dans un cabinet d'affaires pour commencer, et puis j'ai travaillé pour une société immobilière. Et puis j'ai travaillé les quelques dernières années pour l'entreprise Exki. On en parlait tout à l'heure, où j'ai eu la joie et le plaisir de travailler, d'être un collaborateur très proche de Frédéric Rouvet, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et... qui a suscité peut-être chez moi aussi la petite flamme de l'entrepreneuriat.
On en reparlera après. Et qu'est-ce que tu faisais chez Exki?
J'avais trois grands pôles de responsabilité. Je m'occupais du développement du réseau. Je m'occupais aussi de l'aménagement des restaurants, donc le dessin et la réalisation des travaux et les équipes de maintenance. Ce qui a évidemment été le plus concret dans le déclenchement de ce projet-ci, parce que chez Exki, c'est une entreprise quand même qui a des valeurs fortes. On voulait construire des restaurants de manière plus durable et on se rendait compte que mettre la main sur des matériaux de construction non neufs, c'était pas si simple que ça. Et donc c'est un peu ce problème du quotidien et la rencontre avec Marc-Antoine, évidemment. L'idée principale vient de Marc-Antoine d'ailleurs, mais c'est parce que je rencontrais ce problème au quotidien que l'idée de Marc-Antoine m'est apparue aussi lumineuse.
Ok, c'est vrai que c'est fort opposé du métier d'avocat. Hein. Quand tu étudiais le droit, tu t'es dit, tiens, un jour, je finirai entrepreneur.
Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Et je le répète, c'est presque une volonté consciente de chaque fois sortir un peu de ma zone de confort. Et je l'ai quand même fait de manière un peu construite. J'ai chaque fois essayé de m'appuyer sur ce que j'avais construit pour aller joindre un deuxième cercle. Donc j'étais avocat spécialisé en immobilier. De là, j'ai été voir une société immobilière en disant, écoutez, je ne connais pas bien l'immobilier, mais je connais bien le droit immobilier, faites-moi découvrir. Et donc là, j'ai travaillé principalement sur des immeubles commerciaux. Et quand j'ai rencontré Exki, je leur ai dit, je ne connais pas le métier de la restauration, mais je connais bien le métier de l'immobilier commercial. Et ainsi de suite. Et chaque fois, bâtir à partir d'une base solide qu'on a construite dans l'expérience précédente.
Merci, Marc-Antoine.
Oui, donc moi je suis Marc-Antoine, donc comme Bart l'a dit, on est cousins. Je viens aussi d'avoir environ 40 ans, donc on a deux quarantenaires ici autour de la table. J'ai quatre enfants, je suis marié, j'ai pas mal voyagé à titre professionnel, donc j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de pays à l'étranger. J'ai travaillé pendant 15 ans pour un gros groupe de construction belge, dans les travaux maritimes. Où j'étais d'abord, j'ai eu l'impression d'avoir plusieurs vies professionnelles. J'étais en charge de projets d'abord. J'étais vraiment avec mon casque et mes bottes sur chantier, où j'avais l'occasion d'abord comme ingénieur de projet et puis comme directeur de projet de gérer des chantiers, d'être vraiment dans l'opérationnel. Ensuite, j'ai une fonction de plus en plus commerciale, hein, tout ce qui est remise d'appels d'offres, coordination des études pour des projets, des gros projets de construction. Et les dernières années, j'étais en France responsable de la business unit du groupe pour la France, et donc en charge tant de l'opérationnel que des appels d'offres, que tout ce qui gravite dans une entité, une société finalement du groupe installée en France, et qui m'a en fait appris à être assez multifacette. Donc je pense être un ingénieur pas que orienté technique, mais j'aime être assez polyvalent dans mes activités. J'aime quand il y a des challenges un peu changeants sur tous les fronts. Depuis quelques années, j'ai très envie d'un projet entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que dans ces boîtes, et j'étais dans une boîte assez pionnière en matière de durabilité, mais j'avais envie de faire encore plus fort, d'aller plus vite. Et donc j'avais regardé pour reprendre éventuellement une société en essayant d'avoir un impact positif avec une reprise de société. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et un moment est venu, les planètes se sont alignées. Bart et moi, on a eu l'occasion d'échanger. Et puis Coliseum est né, on s'est dit c'est l'occasion de lancer ce projet dont on va parler.
Vous pouvez me raconter un petit peu, c'est quoi, c'est autour d'un repas à Noël
En fait, on a des enfants qui ont pas loin d'avoir le même âge, et nos deux aînés allaient être dans la même unité Louveteau. Et donc on a eu l'occasion de partager un déjeuner, sachant que moi je revenais de l'étranger, donc on avait les dernières années eu peu d'occasions de se voir.
C'est vrai, toi tu vivais à l'étranger.
Je vivais en France, avant j'étais en Inde, et donc peu en Belgique finalement, très peu en Belgique.
Et tu revis en Belgique depuis
combien de temps? Et maintenant on est en Belgique, on est rentré il y a 2 ans environ. Et donc lors de ce déjeuner, on a parlé de nos projets entrepreneuriaux, de nos velléités tous les deux de projets. Et il y avait des valeurs et une vision commune sur le fait d'avoir un impact positif. Et d'allier, on trouvait important, une ambition business et une ambition durabilité. Ne pas faire que de la durabilité avec un business model qui ne tenait pas la route. Ne pas faire que du business pour du business avec comme seule valeur ajoutée l'argent, qui, de mon point de vue, est un peu trop présent par moment, mais d'allier les deux. D'avoir un projet qui soit réaliste au niveau business et à la fois qui ait un vrai impact positif. On a tous les deux des liens avec la construction et on se disait qu'il y avait, des choses majeures à faire dans ce secteur. Et donc voilà, autour de ce déjeuner, l'idée a un peu mûri. Et puis quelques semaines après, on s'est lancé, on a fait le grand saut.
Donc en quelques semaines, toi, tu quittes ton job
et... Ça a été assez vite, effectivement, parce que c'était marrant. Au cours de ce déjeuner, on s'était littéralement plus vu depuis plusieurs années. On s'est rendu compte d'une grosse proximité, effectivement, de nos cheminements. Tous les deux, des parcours très intéressants. Donc, je crois qu'on a beaucoup de gratitude, tous les deux, pour ce qu'on a eu la chance de faire, mais avoir envie de faire un peu autre chose et tout. Et on avait chacun une idée, et on s'est chacun raconté notre idée à l'autre. Bon, il se fait que l'idée de Marcus était meilleure que la mienne. Donc, c'est la sienne qu'on fait aujourd'hui. Et je me souviens très bien avoir... après, il est rentré chez lui, et quelques jours plus tard, lui avoir envoyé un message en WhatsApp... Écoute, Marcus, j'adore ton idée. J'aimerais vraiment bien qu'on puisse en reparler, quoi. Et au début, on en a parlé de manière hyper informelle, et comme si je donnais un coup de main à mon cousin. Et puis un jour, on est un peu sorti du placard en disant, bon, mais si on le fait à deux, quoi. Et c'était vraiment un chouette parcours. Et c'est vrai que de là, ça s'est enchaîné assez vite parce qu'on était à début de l'été. On a passé tous les deux un été
formidablement excitant et formidablement stressant. Je me vois encore en vacances à l'étranger, au téléphone avec Marcus toutes les 2 minutes.
Et donc ça, c'était quand du coup ?
Été 22. Été 2022.
22, ok.
Et puis on est tous les deux rentrés dans nos boulots respectifs à la rentrée. On a tous les deux annoncé qu'on avait envie de voguer vers d'autres eaux. On est des types sérieux, donc on a tous les deux assuré des transitions, je pense, de très bonne qualité, ce qui a mis du temps. Et du coup, on a vraiment pu attaquer full-time le projet Coliseum au tout début de l'année 2023.
Ok. Alors, peut-être juste aller, avant d'aller vraiment sur Coliseum et le cœur du sujet. Alors, vous avez un business qui a de l'impact. Est-ce que vous avez chacun eu un déclic ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans vos vies je ne sais pas, ou de un film, parfois, ça peut être. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous a fait avoir ce déclic ?
Moi,
de
c'est
la
pas...
durabilité, en tout cas.
Moi, ce n'est pas un déclic, c'est pas un moment ponctuel. Ça a été assez progressif, mais c'est surtout venu de la fierté de mon job. Je me rendais compte, quand j'étais sur des projets, que j'avais plus les mains sur le volant pour faire des choses. Et progressivement, en montant dans une fonction plus managériale, j'avais l'impression d'être moins fier de ce que je faisais et qu'on était jugé plutôt sur le profit. Et à presque 40 ans comme ingénieur de construction, le déclic, il est peut-être celui-là, de se dire maintenant, il est temps. C'est maintenant que j'ai envie de changer ce secteur où il y a énormément de choses à faire. C'est le bon âge, c'est le bon moment, les tendances sont là et une très forte envie d'y aller. Donc c'est venu progressivement, pendant 2-3 ans ça a mûri et l'envie était trop forte pour y résister quand on a échangé sur le projet.
Je pense que moi aussi je nourrissais ce rêve d'entrepreneuriat depuis un moment. Je m'étais toujours dit que je voulais le faire mais que je voulais pas le faire seul. Donc ma condition c'était de trouver un compagnon de route que j'ai trouvé avec Marcus. Et puis, dans les dernières années, est peut-être venu s'ajouter une deuxième condition, c'était de faire un business qui avait du sens. Et c'est assez à la mode, c'est assez classique aujourd'hui. Et je pense que c'est nourri clairement par mon expérience chez Exki, où je me suis rendu compte que travailler pour une boîte qui a des valeurs, qui a du sens, bah, c'est quand même plus chouette de se lever le matin. C'est aussi sans doute né de la grande affection que j'ai pour mon beau-frère Chuck, qui a créé une boîte qui s'appelle Soil Capital.
Ah oui.
Qui travaille dans l'agriculture régénérative. Et je voyais l'immense énergie qui tirait du fait de se lever tous les matins pour une boîte qui transformait le monde, quoi. Et donc,
ils sont lauréats du Changemaker. Hein,
exactement.
Oui, je les ai évalués. Oui.
Ouais, je te mets très volontiers en contact avec Chuck si tu le souhaites.
Mais comme je suis membre du jury, j'ai évalué le dossier sur ça. Que... Ok.
Tu ne nous l'as pas donné à nous, d'ailleurs. et donc, voilà.
Ok. Alors, Coliseum, vous me racontez ce que c'est. Bon, je sais ce que c'est, j'ai vu ce que c'était. Mais pour les auditeurs, les auditrices, s'il faut dire en 3 mots ce que fait Coliseum.
Oui, en 3 mots, c'est difficile, mais on peut le dire en quelques mots
le
de plus.
Pitch.
Mais on est fournisseur de matériaux circulaires, de matériaux de construction circulaire. Et ce qu'on entend par des matériaux circulaires, c'est d'une part des matériaux de réemploi, récupérés d'un immeuble qui a été déconstruit, leur donner un second usage. Et c'est d'autre part des matériaux de surplus, des surplus d'un entrepreneur en fin de chantier ou des surplus d'un fabricant qui aurait des défauts et qui ne pourrait plus être vendu selon une filière classique. Et donc ça forme un catalogue de matériaux qu'on vend et donc qui sont des matériaux plus durables que des matériaux neufs pour les professionnels de la construction.
Ce qu'on a l'habitude de dire, pour le dire de manière encore plus simple, c'est qu'on vend tous les matériaux qui, si nous n'étions pas intervenus, auraient fini à la poubelle.
On est fournisseur de matériaux circulaires, de matériaux de construction circulaire.
L'idée,
elle
vient
de toi. Ce qu'on
entend
par des matériaux circulaires. Oui, elle s'est quand même construite. C'est sympa à barre de dire ça, mais elle s'est vraiment construite à deux. C'est-à-dire que une idée, c'est rien. Et donc, c'est l'idée de base, à la base, ça a assez fort évolué. L'idée, c'était le Vinted des matériaux de construction. Ça a démarré
ça.
C'était ce qui est fait pour les vêtements. C'était de mettre en contact l'offre et la demande pour les matériaux de construction. Sauf que Vinted, c'est entre particuliers. Mettre un t-shirt dans une enveloppe et l'envoyer, c'est facile. Mettre une palette de briques dans une enveloppe, c'est plus compliqué. Donc, il y a toute une série de choses qui sont dessinées avec les échanges entre Bart et moi. Et ça a évolué d'un Vinted vers une mise en contact d'offres et demandes entre professionnels. On l'a aussi testé avec des particuliers et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même complexe et donc on est vraiment un fournisseur de matériaux sur demande de nos clients. Nos clients nous envoient une liste de matériaux circulaires qu'ils cherchent et nous, on trouve ces matériaux dans un vaste réseau de partenaires et de gisements, comme on les appelle, et on remet des offres comme si on remettait des offres pour des matériaux neufs, mais avec des matériaux circulaires.
Ok, d'accord. C'est plus ou moins ce que j'avais compris. Parce qu'il y a la possibilité sur le site, on voit quelques éléments qu'on peut acheter, je sais pas, un radiateur, ce genre de choses. Donc ça, vous laissez un petit peu de côté cette partie-là. Vous fonctionnez comme un... Je vais caricaturer, mais comme un Big Mat.
Exactement. C'est vrai que cette partie de notre site, qui était le principal de notre site il y a encore quelques mois, est un peu un héritage du passé. Je pense que l'entrepreneuriat est fait d'essais-erreurs. Et bien que ce n'était pas une erreur, je pense que le fait d'avoir fait tout ça avec les particuliers nous a permis d'énormément apprendre, de tester le modèle, de voir où est-ce que ça bloquait. La magie des particuliers, c'est que c'est une boucle qui est très courte. La commande est passée, le lendemain elle est livrée, on est face au client qui nous fait son feedback, c'était bien, c'était trop cher, la livraison n'est pas bonne. On apprend à toute vitesse, là où un cycle avec un professionnel va mettre 3 mois, et puis ça ne se fait pas, et on ne sait même pas pourquoi. Donc ça a été un apprentissage formidable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre focus, parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus d'impact, tout simplement, c'est d'aider les constructeurs professionnels à construire avec des matériaux circulaires.
Comment ça s'est fait donc au tout début de Coliseum, vous commencez par quoi? Vous dites, en fait, il nous faut des gisements. J'imagine.
C'était un petit peu la poule et l'œuf. C'était de dire, d'un côté, il faut des gisements, il faut de l'offre pour pouvoir répondre à une demande. Et puis, il faut stimuler la demande qui va nous demander un produit spécifique qu'on n'a pas forcément. Donc, c'était constamment appuyer sur le bouton supply, offre, gisement. Et puis, sur le bouton demande pour essayer de faire des matchs, en fait. Et progressivement, d'avoir de la liquidité, comme on dit toujours, c'est-à-dire de plus en plus d'offres et de plus en plus de demandes, pour que la probabilité de faire ces matchs augmente.
Mais donc, comment ça s'est passé, vous? Alors, concrètement, vous dites, OK, je connais machin qui a 3 palettes, je l'appelle. Puis, comment... Est-ce que vous stockez aussi, en termes de modèle? Parce que je pense que vous êtes incubé aussi chez KBC. Donc, à quel moment KBC entre dans le jeu?
Alors, la toute première étape très concrète, et à mon avis, on en rira quand on aura 60 ans, c'est un copain nous a contacté parce qu'il avait racheté un vieux restaurant qu'il voulait transformer en maison et qu'il y avait une grande terrasse. Il nous a dit, vous pouvez tout récupérer. Et donc, sous la neige et sous la pluie, on s'était dit en une demi-journée, on sera démonté. Ça nous a mis 4 jours. et on a démonté entièrement ce bois et on l'a vendu. Donc c'était vraiment, et on l'a vendu via Facebook, c'était le tout début, la société n'était même pas encore constituée, mais ça nous a permis d'abord de nous donner beaucoup d'énergie, parce que c'est excitant, on a un chien, il y a quelqu'un qui a envie d'acheter ce qu'on vend, et puis on teste, et puis petit à petit on a monté. Un des premiers constats qu'on a fait, Marcus parlait il y a un instant de liquidité, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, il y a un déséquilibre relativement important entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à céder des matériaux, mais les gens qui sont prêts à faire le pari d'intégrer dans leur construction des matériaux un peu alternatifs, c'est encore un peu plus timide. Ça évolue vite et on s'en réjouit, mais c'est encore plus timide. Et donc, le constat qu'on faisait, c'est que pour pouvoir vendre 5 objets, il fallait en avoir 100 dans le catalogue. Et donc, on s'est dit, si on commence à démonter, transporter, nettoyer, réemballer 100 produits pour en vendre 5, on ne va jamais gagner notre vie. Et c'est là qu'on est arrivé à une idée de se dire, prenons le problème dans l'autre sens, allons voir les gens qui construisent et demandons-leur ce dont ils ont besoin. Nous, en parallèle, on fait le travail de cartographier, comme on dit souvent, tous ces gisements. Ces gisements, c'est des immeubles qui sont encore debout, c'est le stock d'entrepreneurs, c'est le stock de revendeurs spécialisés et tout. On a tout ça dans une database. Et quand je sais que tel constructeur cherche tel matériau, je croise ça avec la database. Et à ce moment-là, on va le chercher, on va le nettoyer, on va le reconditionner, etc. Mmh. Donc, c'est une approche qui est forcément un peu différente, qui est parfois inconfortable, parce que parfois, on croit que l'objet est dans notre database et quand on appelle, en fait, il n'est plus disponible. Donc, il y a des inconvénients aussi. Mais on a l'impression que sinon, on va vite se retrouver avec un entrepôt de 10 000 m² rempli de tas de choses qu'on n'arrivera jamais à vendre. Donc, c'était un peu notre approche.
Donc là, vous servez d'intermédiaire. Il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de...
Effectivement, sur la question du stockage, comme vient de dire Bart, on cartographie tous ces gisements, on évite de les ramener chez nous et de les stocker. Donc, on n'a pas un giga entrepôt pour vendre physiquement des choses qui sont sous notre toit. On a un stockage temporaire quand c'est nécessaire pour des clients qui ont déjà confirmé une commande. Mais on n'est pas que des intermédiaires. On fournit des matériaux à nos clients. En fait, nos clients nous disent « je veux tel matériau ». On va le chercher, on s'occupe de remonter la chaîne de valeur au moment où on a une demande. C'est-à-dire que s'il faut aller démonter, prendre des mesures, inventorier ces matériaux, on le fait. Démonter éventuellement avec un partenaire, les transporter, les reconditionner, éventuellement faire une certification qualité pour que les matériaux in fine soient livrés sur palette chez notre client, comme si c'était du neuf. Mais donc, on fait toute cette chaîne de valeur pour notre client pour qu'à la fin, ben, il soit livré, il soit fourni d'un matériau. Donc, on n'est pas que intermédiaire. Mmh. On remonte cette chaîne de valeur et on essaie d'apporter une confiance sur ces matériaux en faisant des partenariats éventuellement avec des certificateurs, des labos, des gens comme Buildwise dans la construction pour, en fait, pour vraiment donner confiance dans ce qui est acheté par, par le client.
Et vos clients, c'est quel type du coup aujourd'hui ? Ça va être pour être très concret, hein, des Eloi, Wüst, ou alors ça va être un entrepreneur qui va construire des maisons unifamiliales. C'est quel
On a pour l'instant les deux. Et d'ailleurs, on rentre dans un projet via trois canaux, le maître d'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur, les trois. Souvent, les trois doivent être motivés à faire du réemploi ou du circulaire pour que le projet se fasse. Celui qui va payer la facture, c'est souvent l'entreprise générale. Et effectivement, c'est des entrepreneurs de grosse taille, BPC, Blaton, Louis de Waal, ce genre d'entreprise, mais aussi des plus petits. On a aussi des petits entrepreneurs qui cherchent des petites quantités et qui sont intéressés peut-être plus pour des raisons économiques d'acheter des matériaux circulaires.
Oui, parce que la construction, t'attends à la fois des... Moi, j'ai fait construire des maisons unifamiliales que les gros immeubles. On est sur deux secteurs différents. Vous êtes sur les deux ?
Oui, on est sur les deux. Et d'ailleurs, c'est un apprentissage qu'on est en train de faire aussi. On parlait du fait qu'on voulait avoir de l'impact, mais qu'on voulait avoir une boîte robuste aussi. Donc, ça veut dire qu'économiquement, tient la route. Ce dont on se rend compte, c'est que si on veut avoir un chiffre d'affaires stable, il faut pouvoir panacher avec différentes tailles. Si on fait que des gros ou que des petits, forcément, on a un pipeline qui est beaucoup moins lisse. Mmh. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, on essaye de panacher. Ce qu'on évite de faire, c'est vendre à un particulier deux radiateurs, parce que ça, c'est trop petit. Mais par contre, on a des entreprises de taille modeste, on a des très grandes entreprises, et dans les deux cas, ça nous plaît beaucoup.
OK. Oui, c'est le cas de Vinted qui ne sera jamais rentable, en vrai. Donc, ça...
Loin de moi l'idée de vouloir commenter le succès
les
difficultés
des calculs de business, business model est vite...
A fortiori dans notre métier, où il y a quand même une particularité, c'est que les matériaux qu'on vend sont souvent très lourds, très encombrants, mais ont une valeur unitaire modeste. Et donc, transporter des toutes petites quantités, ça fait rarement du sens.
Donc, premier démarrage, vous m'avez dit 2023, donc ça commence été 2022 et puis début 2023, donc là ça fait un an,
plus d'un an. Pour simplifier, réflexion préliminaire entre l'été 2022 et la fin de l'année 2022, travail en chambre d'affinage de la proposition de valeur, de création d'un premier catalogue et tout pendant la première moitié de 2023 et on commence à vendre effectivement deuxième moitié de 2023,
okay.
En super simplifié.
Ok, ok. Et à quel moment vous intégrez Startit de KBC et pourquoi ?
Alors, on a intégré le programme donc de la cohorte de l'automne 2023. Donc, c'est, si je ne dis pas de bêtises, en septembre 2023. L'idée, en fait, c'est qu'on pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres dans ce genre d'environnement. On a tous les deux des chouettes carrières, mais plutôt dans des boîtes établies, des grosses PME, voire des... Moi, j'étais dans un groupe qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est des autres dynamiques, évidemment.
Écart.
Exactement. Et en fait, on l'a vu avec pas mal de copains autour de nous. L'entrepreneuriat, c'est des méthodes, c'est tester assez vite pas mal de choses. C'est beaucoup de relations humaines. On voit d'ailleurs qu'on a énormément de soutien de beaucoup de gens autour de nous. C'est tisser des partenariats avec pas mal de gens où l'humain a un rôle clé. Et on se disait que Startit allait nous aider à accélérer, on va dire, cette démarche entrepreneuriale, de tester, qu'on allait se faire challenger sur « mais testez ça, on va plutôt à gauche, on va plutôt à droite, testez-le ». Et c'était une manière de se faire un peu botter les fesses de la bonne façon pour avancer. Et donc, très chouette.
On s'est fait botter les fesses ?
Et on s'est fait botter les fesses deux, trois fois. et on apprend vite sur pas mal de choses où on l'aurait regardé d'une manière peut-être un peu, en tout cas je parle pour moi, peut-être un peu plus théorique en conceptualisant des choses. Aujourd'hui, on va sur le marché, on teste. Et on a des retours très rapides et c'est super intéressant. Et puis après, il y a tous ces autres entrepreneurs et ça donne une énergie formidable d'échanger avec d'autres entrepreneurs, que ce soit chez Startit ou dans d'autres programmes d'ailleurs, dans d'autres contextes, c'est vachement énergisant.
Mmh. Alors, vous êtes tous les deux, toi particulièrement dans le secteur de la construction, toi aussi Barthélémy par ton parcours. Hein. Est-ce que vous pourriez résumer, pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec les défis du secteur de la construction aujourd'hui, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quels sont leurs grands défis en matière de réemploi de matériaux ? Parce qu'en matière de durabilité, on sait que...
Oui,
je ne sais pas que ce sont les pires, mais ce n'est pas ça. Mais en tout cas, c'est un énorme impact le secteur de la construction. Mais moi, pour travailler avec pas mal d'acteurs aussi, on a de nos clients des acteurs de la construction, et ils nous disent « Non, mais le réemploi, je veux bien, mais... »
C'est compliqué.
« J'y arrive pas, c'est impossible. »
Oui, c'est compliqué. Bah,
donc, c'est quoi le fondement, c'est quoi leur problème?
Alors... Nous, le constat qu'on en fait, c'est qu'un des gros défis, c'est quelqu'un qui veut le mettre à large échelle, trouver un ou deux radiateurs en réemploi, c'est facile. Trouver 100 radiateurs pour un immeuble en réemploi, c'est plus compliqué. Donc avoir cette échelle large est un vrai challenge. Et c'est vraiment notre cœur de métier d'y répondre avec Elysium, c'est d'agréger, c'est de cartographier tous ces gisements pour pouvoir répondre justement à la demande avec une offre importante et de pouvoir proposer 50 éviers ou 50 radiateurs ou 1000 m² de revêtement de sol ou d'isolant. On a donc constitué ce catalogue large pour répondre à ça. C'est le vrai défi, on pense que c'est la quantité, la disponibilité de matériaux en quantité large à mettre dans le projet. Un deuxième gros défi, c'est la logistique. Hein, ce qu'on dit toujours, c'est que nos clients, ils n'ont pas le temps. Les entrepreneurs dans la construction, ils n'ont pas le temps. Ils ont un agenda complètement chargé et donc ils n'ont pas le temps d'aller démonter, aller vérifier des matériaux. Donc ce qu'on fait pour eux, c'est qu'on leur livre clé en main sur chantier les palettes. C'est vraiment le deuxième problème. Le deuxième challenge, c'est que c'est aussi simple que du neuf. Et le troisième, c'est la confiance. C'est qu'aujourd'hui, acheter un matériau de réemploi, c'est oui, mais j'ai pas de fiche technique. Oui, mais quid de ma garantie décennale. Oui, mais il y a un petit coût. Tout ça, et c'est peut-être le plus gros challenge au niveau technique, on essaye de rassembler toutes les infos qu'on a avec des fiches d'information techniques. On certifie certains lots de matériaux avec des labos pour montrer la qualité de ces lots. Et puis tout simplement, aujourd'hui, on le fait avec des matériaux relativement simples et des clients qui sont motivés. C'est-à-dire qu'on commence par une porte, des portes, des revêtements de sol, et peut-être pas par des choses structurelles du bâtiment.
Oui, j'allais dire, on est sur quel type de matériaux typiquement, là pour l'instant ?
On est typiquement sur du bois, on est sur de l'isolant, on est sur du revêtement de sol, on est sur des sanitaires, on va être éventuellement sur des dalles de faux plafond,
du bardage.
On va être moins sur des poutres métalliques portantes, effectivement. Effectivement. Et en fait, tout ça, toute cette circularité, amener ça à l'échelle avec des grosses quantités, permet vraiment de réduire l'impact du secteur. C'est un levier énorme pour réduire vraiment l'impact du secteur de la construction, qui on parlait de construction durable. Aujourd'hui, pour donner deux chiffres, qui chez nous nous parle assez fort, c'est qu'environ 33% des déchets à l'échelle mondiale sont produits par la construction et à la fois 50% des matières extraites le sont pour la construction.
C'est un non-sens. Hein. Oui, oui,
pour nous, c'est une évidence, c'est pas facile, mais c'est une évidence de nouer les deux bouts avec de la circularité.
Est-ce que vous sentez, j'imagine que vous avez eu des discussions avec des géants du secteur, vous sentez qu'ils ont envie ou alors est-ce qu'ils se sentent ou peut-être poussés par les réglementations, sont tous concernés par cette directive européenne de la CSRD où la circularité entre en ligne de compte. Donc ils ne sont pas obligés de faire, je sais pas moi, 30% de réemploi, mais ils doivent dire si c'est zéro. Et c'est tout de suite moins sexy si tu dis « Ah non, moi le réemploi... » Donc comment vous les sentez, vous, à ce niveau-là?
Alors,
en toute franchise.
Non, en toute franchise, je suis épaté que la proportion des gens qui ont conscience de l'enjeu et qui veulent faire quelque chose est élevée. Je ne dirais pas que c'est tout le monde, bien sûr, mais vraiment, la proportion est beaucoup plus importante que ce que j'avais imaginé et la proportion évolue très vite. J'ai l'impression que même en un an, c'est peut-être parce que petit à petit, on fait de plus en plus notre trou dans ce monde-là, mais depuis un an, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu une évolution. Est-ce qu'ils le sont par conviction personnelle? Est-ce qu'ils le sont pour des raisons marketing? Est-ce qu'ils le sont parce qu'il y a effectivement des instruments réglementaires qui pointent le bout du nez et qui se rendent compte qu'ils n'auront pas le choix? Ils ne me le disent pas forcément. Et entre guillemets, tant que ça va dans le bon sens, tant mieux. Mais on voit que ça bouge. Là, c'est vrai, tu parles de la CSRD, qui s'appuie sur la taxonomie, va apporter une grille de lecture très objective sur qui travaille de manière responsable et qui travaille de manière non responsable, ça va être mis sur la place publique. Notre conviction profonde, mais on ne veut pas être des donneurs de leçons, c'est que ce n'est pas « j'ai envie de le faire » ou « j'ai pas envie de le faire », c'est « je le fais » ou « à terme, je m'exclus du marché ». Et donc, notre conviction, ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est « autant commencer tôt ». D'abord, parce que grâce à ça, vous avez l'occasion d'apprendre. On commence, Marcus le disait, on commence par des petites choses. On fournit les clinkers pour l'allée qui conduit à la porte d'entrée de l'immeuble. Mais après, on monte en puissance petit à petit. C'est beaucoup plus confortable que de devoir commencer dans la grande profondeur immédiatement. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on l'a vu sur d'autres secteurs, c'est que toute cette réglementation est quand même en train de s'affiner. les gens qui sont à la pointe du combat vont être autour de la table et avoir l'occasion de donner leur avis et d'influencer dans une certaine mesure la manière dont la réglementation va évoluer. Là où celui qui est assis dans son fauteuil en attendant que ça se passe, il n'aura rien à dire et ça va lui être imposé. Donc c'est un peu choisir de prendre sa vie en main ou de choisir de la subir. Et je répète, pour des raisons écologiques, enfin on a tous les deux des enfants, on a envie de leur laisser une meilleure planète que celle qu'on a trouvée, et aussi pour des raisons de durabilité de notre entreprise elle-même, je m'en réjouis évidemment de voir ce mouvement qui se développe.
Vous auriez quelques exemples concrets, tu parlais à l'instant de l'allée d'un immeuble, d'autres exemples concrets comme ça de matériaux que vous avez fournis récemment qui ont servi concrètement à faire quoi?
Oui, on a par chance de plus en plus d'exemples. On a récemment un projet qu'on aime bien, c'est qu'on a récupéré dans un immeuble de la Commission européenne tous les faux plafonds. Donc c'est des faux plafonds en dalles, on a récupéré les dalles qui...
Oui, les dalles en laine de verre, comme ça.
Oui, c'est du roc fond, oui. Je crois que c'est de laine de roche.
Et ça a été réutilisé pour un immeuble résidentiel à Anderlecht. C'est une chouette histoire, ça devait être mis à la poubelle et ça a été récupéré. On a récupéré aussi des éviers dans une école dans le Brabant Wallon, on les a reconditionnés avec un partenaire, et ces éviers sont aujourd'hui dans une école à Bruxelles, je pense. Donc c'est toutes des histoires très concrètes. Et de nouveau, ça peut paraître anecdotique, mais je pense qu'il faut le voir comme un mouvement qui se met en marche. Et aujourd'hui, parce qu'on gagne en expertise aussi, on regarde des projets beaucoup plus sérieux. On est en train de regarder un projet d'un bâtiment public qui va être construit à Bruxelles, dans lequel on pourrait fournir pour plusieurs centaines de milliers d'euros de matériaux en un coup. Donc à la fois, la quantité de matériaux est colossale, et par conséquent, forcément, la quantité de CO2 qui est économisée est colossale aussi.
Vous savez le calculer, ça? Vous fournissez le calcul quand vous...
Oui, c'est quelque chose qu'on fait. On fait une estimation sur base d'une analyse du cycle de vie des matériaux comparée entre du neuf et du réemploi. On estime en moyenne, on tourne à environ une réduction de 80%. Donc, on n'a plus que 20% de l'impact CO2 avec des matériaux de réemploi par rapport à du neuf. Donc, quand on parle en pourcent, c'est énorme. Sur l'immeuble dont Bart était en train de parler, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros de matériaux, on parle de plusieurs centaines de tonnes, je pense qu'on était environ aux alentours de 400 tonnes de CO2 économisées par exemple en cas de mise en œuvre uniquement une dizaine de matériaux sur les 150 du projet, une dizaine de matériaux de réemploi. Donc effectivement on le calcule parce que c'est un paramètre clé pour plusieurs de nos clients.
Ah oui, puis eux doivent mesurer leur bilan. Enfin, nous, on fait des bilans carbone. On sait comment baisser son bilan carbone. Bah, le premier levier, c'est de faire de l'économie circulaire. Donc, voilà.
Oui, 400 tonnes, c'est extrêmement substantiel. Qu'est-ce que tu disais? C'était 4000 allers-retours vers le sud de la France.
Oui. Mais de toute façon, comme c'est toujours les achats, c'est parce que tant qu'on n'a pas fait son premier bilan carbone, on a des croyances comme ça, puis on se rend compte, ah mince, c'est les achats. Ouais. Ah bah si je veux vraiment agir, bah, je dois agir sur mes achats, genre mes déchets, c'est bien, mais c'est jamais plus de 1% du bilan carbone. Donc voilà, les solutions, elles sont, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche, sauf qu'il faut mettre en place ce système, et vous le constatez aujourd'hui, la reprise, on est très bon pour mettre sur le marché. On a fait ça pendant ici 130 ans très très bien, et il va falloir qu'on soit très très bon pour reprendre. Et je pense que ceux comme vous qui êtes les premiers à être ceux qui vont être les meilleurs pour reprendre, c'est ceux qui auront tout compris. Voilà.
Après, c'est compliqué.
Mais c'est compliqué. Reprendre, c'est compliqué, bien sûr.
Tout était hyper simple. Au quotidien, c'est compliqué. Il y a des enjeux dans tous les sens. La logistique est complexe. Faire cloper les timings est complexe. Donc voilà, ça crée des opportunités économiques aussi de développer des acteurs qui se spécialisent sur cette complexité-là.
Alors, en termes de modèle économique, vous faites comme Vinted?
Non, on avait démarré avec cette idée, comme on a expliqué, on avait démarré avec l'idée de prendre une commission. Aujourd'hui, on vend des matériaux et on fixe le prix de ces matériaux en fonction des activités qu'on doit faire pour les livrer sur chantier. C'est-à-dire que si le démontage coûte 5 € du mètre carré, le transport coûte 3 € du mètre carré, le reconditionnement coûte 2 € du mètre carré, on va faire le puzzle. On va dire que ça coûte 10 € du mètre carré, on va prendre en compte ce coût pour remettre une offre, un prix à notre client final.
Et la valeur? vous rétribuez la personne qui, ou l'entreprise qui se défait de
Aujourd'hui,
t'as trois palettes de briques parce que t'en as acheté trop, je prends les surplus typiquement, vous rétribuez quand même.
Ouais. Aujourd'hui, on est dans un modèle où on achète et on revend, effectivement. On ne prend pas une commission. Alors, quand je dis on achète, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça va dépendre des cas. Quelqu'un qui a des briques, des palettes de briques neuves sur le trottoir, on n'a qu'à venir les chercher, c'est clair qu'on va les rétribuer. Ouais. Quelqu'un qui va nous dire, tiens, j'ai un immeuble qui va être démoli l'année prochaine, prends les portes si tu le souhaites. Sinon, on doit nous-mêmes démonter toutes les portes, les transporter, les reconditionner et tout. Il reste assez peu de place dans l'équation économique pour le rétribuer. Sa rétribution, c'est d'une part le fait que écologiquement, c'est bien. Et d'autre part, c'est qu'il y a un coût de démontage et de mise en décharge qu'il aurait dû supporter, qu'il ne supporte plus. Mais par contre, on ne va pas, en plus de ces deux avantages-là, aller le rétribuer.
Pour la matière, quoi, je veux dire. Exactement. OK. Une petite question. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein, et de plus en plus, chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Je me demandais, vous, comment vous voyez le rôle de la technologie, et quand je dis technologie, je pense à l'intelligence artificielle, dans votre secteur, dans la construction durable et circulaire.
Alors, pour le secteur dans son ensemble, je n'oserais pas me prononcer.
Chez
nous, on y voit clairement des grandes opportunités. D'abord, ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est bêtement de l'informatique, mais être capable de gérer des très gros volumes de données qu'est notre catalogue, ça permet d'avoir donc un stock qui est dématérialisé. Au lieu d'avoir un entrepôt, c'est purement virtuel. Ça permet donc, au lieu d'avoir 10 références, en avoir 10 000. Ça change tout en termes de disponibilité pour nos clients. La deuxième chose où on voit une application très concrète, c'est qu'aujourd'hui, ces informations à propos des matériaux qui sont disponibles, elles nous arrivent de manière très disparate. Et donc, il y a un gros travail de retraitement pour les remettre dans la database. Certains nous envoient des PDF, d'autres des Excel, parfois 100 mm, parfois 100 cm, parfois 100 français, parfois 100 allemand. Aujourd'hui, on se débrouille, mais c'est clair qu'un jour, il y aura matière à installer des outils, et à mon avis, ce n'est pas très compliqué, des outils qui retraitent tout ça et qui permettent d'absorber toute cette donnée pour la retraiter et avoir une database cohérente. Ce qui n'est pas un but en soi, mais par contre, permet de donner accès à la database à nos clients qui pourront aller eux-mêmes regarder ce qui est disponible et se dire « Ah tiens, ils ont 10 portes, ah, je pensais faire autre chose, mais celles-là, elles sont bien, je vais les acheter et je vais construire autour de ça. » Donc ça, c'est notre objectif. À terme, notre rêve, c'est que le constructeur puisse prendre son métré, nous l'uploader dans notre database et qu'il ressorte avec colorié en vert ce qu'on peut fournir avec l'économie qu'il fait et l'économie de CO2 qu'il fait ligne par ligne. Mais bon, c'est des gros investissements et je pense qu'on a une vision durable pour notre entreprise aussi. Ça veut dire ne pas dépenser ce qu'on n'a pas. Et donc, ce qu'on veut commencer par faire, c'est démontrer qu'il y a un marché, démontrer que ça marche. On le fait de manière très artisanale maintenant, ce qui nous permet aussi d'avoir un contact très direct avec nos clients, ce qui est formidable pour apprendre et créer la confiance. Mais c'est vrai que si un jour on veut monter à l'échelle, il faudra être capable d'avoir ce genre de système. Mmh. Chaque chose en son temps.
Bien sûr. Et vous êtes en phase de lever des fonds ou pas?
Parce qu'on a, fin 2023, eu la chance d'accueillir autour de notre table quelques investisseurs dont on est extrêmement enthousiaste parce que, au-delà de leur argent, qui évidemment est utile, mais ils nous apportent énormément d'expérience, énormément de vision, des carnets d'adresses formidables. Et donc, on commence déjà à en profiter aujourd'hui. Et donc, ça nous permet de donner de la sérénité pour le développement des mois et années qui viennent, d'une part, et donner... Un des premiers constats, je fais un coq à l'âne, mais un des premiers constats qu'on a fait quand on a lancé Coliseum, c'est que, en fait, il y avait déjà des tas de choses qui existaient. Et vouloir tout réinventer à côté, ça n'avait aucun sens. Et donc, on a assez rapidement été acquis à l'idée de l'écosystème. C'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est de réussir à faire jouer ensemble tous ces gens. Et ce qui est valable à l'échelle du marché du réemploi est évidemment valable à l'échelle de Coliseum. À deux, on est pas mal. Mais avec ces personnes autour de la table, on est encore beaucoup mieux, quoi. Et donc, chaque fois, jouer sur les forces de tout le monde pour faire fonctionner tout le monde ensemble, on est absolument persuadé que c'est une des clés de ce qui pourra faire le succès du réemploi dans son ensemble et accessoirement de Coliseum.
Alors, comment est-ce que, d'après vous, les politiques publiques, les réglementations peuvent soutenir en tout cas qui se lance, je vois que tu ris, soutenir ce réemploi.
Je suis embêté parce que j'ai l'impression de parler beaucoup et que le pauvre Marcus ne peut pas s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui
me tient... J'ai encore plein de questions.
Voilà, bon, la suite, ce sera pour lui. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on est face à une vraie réflexion sociétale. Aujourd'hui, on constate que, dans le métier qui nous occupe, la fourniture de matériaux de construction, l'essentiel vient de l'étranger. Et ça vient de l'étranger tout simplement parce que c'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher ? C'est parce que la main-d'œuvre à l'étranger coûte beaucoup moins cher qu'en Belgique. Et donc, en fait, on crée de la compétitivité pour ces matériaux en s'appuyant sur le fait que les travailleurs qui les ont construits ont des conditions de vie beaucoup moins agréables que toi et moi. Et je trouve que, d'un point de vue sociétal, on se tire complètement une balle dans le pied si on voulait créer du réemploi en Belgique. Ça fait beaucoup de travail pour une main-d'œuvre non qualifiée, non délocalisable, ça a des externalités environnementales positives phénoménales. Je ne comprends pas qu'on accepte de faire tout venir de l'étranger parce que c'est plus simple. Pourquoi est-ce que le plus simple, et c'est tellement simple, ne fût-ce que serait de diminuer le coût du travail sur les opérations de réemploi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des allègements de cotisations patronales sur le travail des gens qui vont aller récolter, qui vont nettoyer, etc. C'est une manière de redonner de la compétitivité à la Belgique. C'est une manière de créer un système commercial sur ces matériaux beaucoup plus vertueux. Enfin, je comprends pas. Ou via une TVA allégée, via des droits de douane, via...
Oui, c'est tout à fait possible.
Mais comment est-ce qu'on ne sait pas de rétablir la balance entre la brique qui a été fabriquée en Turquie, dans des conditions qu'on n'a pas tellement envie de savoir, par rapport à la brique qui a été récupérée sur un chantier à Neder-Rumbeek ? Je ne comprends pas.
Et en termes de prix, justement, vous êtes moins cher que du neuf ?
Alors, on veut être moins cher. Aujourd'hui, sur certains matériaux, on est clairement moins cher. Sur certains matériaux, avec ce qu'on expliquait, avec la complexité, par exemple, de démonter et puis de faire toute cette chaîne de valeur, on n'est pas toujours moins cher. Mais on veut pour nos clients être moins cher. Donc on se concentre sur les lots, les quantités et les types de matériaux qui nous permettent d'être moins cher, effectivement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on se professionnalise. On voit que chaque mois, la demande augmente, on se professionnalise. Et comme beaucoup d'industries, en fait, c'est du low-tech, mais qui doit se professionnaliser. Ce qu'on fait, on s'améliore et on devient de plus en plus compétitif. Donc on voit que... Il y a une vraie possibilité d'être moins cher que le neuf, effectivement.
Bah, je pense que ça, c'est un argument de taille. Et puis si en plus, vous pouvez être soutenu, effectivement, à travers des politiques gouvernementales qui peuvent soutenir pour du vrai, avec de vraies mesures structurelles comme tu le proposes. J'espère qu'il y a des politiques qui nous écoutent. Je pense que oui.
Je suis ravie d'aller débattre avec vous.
Voilà, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel vous attendiez pas du tout depuis que vous avez lancé Coliseum, si je reprends, été 2022, un truc auquel vous attendiez pas ?
Moi, je vais dire une chose pour mon associé. Je savais que c'était quelqu'un de formidable, mais ce que je me suis rendu compte, c'est peut-être ma plus grosse leçon de cette année écoulée dans un projet entrepreneurial, c'est que d'être deux, c'est un socle tellement crucial, dans les bons comme dans les moments plus compliqués. C'est crucial. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui va, et c'est, tout est autour de l'humain là-dedans, c'est le soutien, la bienveillance des gens pour aider un projet comme le nôtre. De toutes parts, les gens ont envie de nous aider. On tisse des liens avec des personnes, que ce soit des partenaires business ou des conseillers. On parlait des investisseurs. On a des gens, nos familles, nos amis, on a des gens autour de nous. Ça donne une énergie incroyable et je la retrouve beaucoup plus... maintenant comme entrepreneur que quand on est dans une grosse boîte en corpo, les gens disent il a sa voie toute tracée. Ici, on s'est mis à risque, on est clairement sorti de nos zones de confort, mais on nous le rend bien. Voilà, ça serait mon input.
Je n'aurais pas pu mieux le dire. Et je réciproque à Marc-Antoine, c'est très gentil compliment.
Alors, c'est quoi, je peux l'imaginer, mais c'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui ?
Je pense que notre plus gros défi, c'est qu'aujourd'hui, c'est très excitant parce qu'on arrive à faire des transactions, on arrive à convaincre les clients d'acheter nos produits et donc de faire un volume d'affaires, mais qui est encore évidemment relativement modeste. Notre vrai défi, c'est de faire ça à grande échelle. C'est que là où on fait 10 aujourd'hui, faire 100 et faire 1000 dans les années qui viennent.
Et peut-être de même rajouter, parce qu'aujourd'hui, nos clients... sont vraiment des innovants, des early adopters, c'est essayer de faire passer cette pratique du réemploi, de faire bouger les mentalités, et c'est assez large comme défi, mais faire bouger les mentalités pour que ça passe d'une espèce de niche à quelque chose de beaucoup plus norme. Et ça doit changer avec la législation aussi, mais c'est en fait de faire bouger les mentalités. Le secteur de la construction est très statique pour avoir été 15 ans là-dedans. On l'a toujours fait comme ça, ça fonctionne, pourquoi changer ? Grosso modo, je caricature un petit peu et c'est essayer de faire bouger un peu les lignes et même faire bouger beaucoup les lignes sur ces aspects-là.
Cela étant dit, j'ai entendu la semaine dernière une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Quelqu'un m'a dit « l'utopie est en train de changer de camp ». Les utopistes aujourd'hui, c'est ceux qui pensent qu'on pourra continuer comme avant. Et donc, je trouve que ça résume bien un point de bascule auquel on est en train d'assister, je pense. Est-ce qu'il est derrière nous ? Est-ce qu'il est devant nous ? En tout cas, on est dans la zone de ce point de bascule. Et c'est vrai que le secteur de la construction n'est pas le plus... C'est pas la Silicon Valley, bien sûr. Mais par contre, on voit quand même beaucoup de gens qui se disent « non, un chien, il faut faire quelque chose », quoi, et qui sont prêts à « walk the talk ». Et c'est très excitant.
Et c'est marrant, vous ne parlez pas du défi de l'appro, d'avoir assez de matière. C'est quelque chose qui vous tracasse, ça, ou pas ?
Si, mais il est induit. Si on veut vendre beaucoup, c'est qu'on a trouvé beaucoup. Donc, souvent, les transactions qui échouent, parce que malheureusement, on regarde des dossiers où la transaction échoue. Elle échoue parfois parce qu'on est un peu trop cher. Elle échoue parfois parce que le client, en dernière minute, n'ose pas se lancer. Mais elle échoue le plus souvent parce qu'on ne trouve pas ce dont ils ont besoin. Donc, effectivement, l'approvisionnement est un élément clé. Et surtout, avoir une certaine récurrence d'approvisionnement, ne pas devoir réinventer la roue à chaque fois qu'on nous pose une question.
Est-ce que, alors je me mets à la place des tout gros constructeurs, je prendrais Wüst par exemple, là, il fait tous les buildings ici autour. Eux ont un manque à. Je pense au surplus. Je ne connais pas bien les chiffres dans le secteur au surplus, mais eux ont quand même un manque à gagner à ne rien faire de ces surplus. Ou alors les surplus ne comptent pas tellement pour beaucoup,
c'est un cas spécifique, les surplus, mais ce qui se passe, c'est que pour une entreprise, il vaut mieux dépenser un peu plus en matériaux et être certain d'avoir assez, donc de finir le chantier à temps, parce qu'il y a éventuellement des pénalités de plusieurs milliers d'euros par jour, il y a éventuellement des équipes qui coûtent cher, la main-d'œuvre coûte cher, qui doivent rester sur le chantier tant que ce n'est pas fini. Il y a un client qui n'est pas satisfait parce qu'il met des réserves, parce qu'il reste 10 mètres carrés qui ne sont pas... Donc, il y a une tendance quand même à avoir des surplus. Après, ayant dit ça, cette tendance... c'est le job d'une grosse entreprise comme ça, c'est de calculer juste pour avoir le moins de surplus possible. Quand les quantités sont petites à l'échelle d'une grosse boîte comme Wüst, l'équation économique pour eux, c'est est-ce qu'on ramène ça à l'entrepôt et donc est-ce qu'on le stocke pour peut-être le ressortir sur un autre chantier parce qu'on sait que c'est un matériau qui ressortira facilement, ou est-ce que les quantités sont trop faibles et donc ça coûte moins cher en fait de l'évacuer, de le mettre à la benne ou éventuellement de lui redonner une seconde vie via du réemploi.
Ici, on joue aussi avec les effets d'échelle. Forcément, on construit un immeuble de 70 appartements. S'il reste 25 mètres carrés de carrelage à la fin du chantier, c'est un déchet et le surcoût que ça représente est relativement indolore dans le projet global. Mais 25 mètres carrés de carrelage de surplus là, c'est la salle de bain et la cuisine d'une maison unifamiliale ailleurs. Donc, c'est un peu une espèce de chaîne alimentaire où les tout gros alimentent les moins gros et ainsi de suite. Donc, je parle que des surplus, hein, mais pour les surplus, il faut jouer sur ces effets d'échelle pour être sûr. Il y a une phrase qui est, je ne sais plus exactement quoi, mais les déchets de l'un sont les trésors de l'autre.
Oui, ou quelque chose les comme ressources
ça.
De l'autre.
Ouais. C'est ça, c'est ce qui est un déchet pour l'un, n'est pas forcément pour un autre.
Ouais.
Il y a un autoconstructeur qui fait lui-même sa maison. S'il doit faire 2 heures de route avec sa remorque pour aller chercher des carrelages, mais qu'en échange, il les a à moitié prix, il sera prêt à le faire.
Il le fera. Et vous n'avez pas peur que les tout géants se lancent eux-mêmes là-dedans, tout seuls ?
Alors, on travaille avec eux, effectivement. Ils sont tous dans des réflexions. On travaille avec beaucoup d'entre eux. On pense que un seul, et il y en a, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui l'essayent intra-entreprise, ils sont limités en termes, on parlait de liquidité, ils sont limités parce que c'est entre les chantiers de l'entreprise. Et donc, j'ai 300 mètres carrés d'isolant. Je n'ai pas un chantier qui démarre au bon moment au sein de mon entreprise. Je ne sais donc pas les réutiliser. La force de travailler avec plus d'entreprises et donc tous ensemble, c'est que ces 300 même mètres carrés peuvent resservir sur le chantier d'une autre entreprise. Donc en fait, on veut créer du liant. On parlait des partenaires pour rendre nos services, mais c'est aussi entre nos clients. On veut créer du liant entre les différents gisements pour pouvoir réutiliser ce qui sort d'un chantier A vers un chantier B. Mais pour répondre à ta question, oui, il y en a beaucoup qui réfléchissent. Avec notre catalogue et avec la quantité de matériaux qu'on peut proposer, on pense qu'on a une force pour travailler ensemble.
Qu'est-ce qui vous obsède aujourd'hui ?
À titre professionnel ou à titre...
comme vous voulez.
Comme gérant de Coliseum ou comme citoyen ?
Comme vous voulez.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour de nous, beaucoup de choses excitantes, mais des choses inquiétantes aussi. Donc, réussir à trouver... Moi, ce qui m'obsède, je pense, c'est de réussir à trouver à l'échelle de la société un récit qui nous motive tous ensemble à aller vers un monde meilleur. Et je pense qu'on assiste de toutes parts à des prises de conscience, mais on assiste aussi à des mouvements contradictoires. Et je pense que se dire que tous ensemble, on va vers un monde plus juste, plus respectueux, sans être des irréalistes, hein, mais se dire simplement le toujours plus n'est pas forcément la clé à tout. Et que dans les relations humaines, que dans les relations politiques, qu'on puisse s'apaiser et aller vers un monde plus respectueux, serait peut-être ce qui m'obsède.
Barthes a dit beaucoup de choses pour descendre d'un étage sur ce qu'on fait. Pour moi, ce serait aider de manière très très concrète à réduire l'impact du secteur de la construction. En tant qu'ingénieur en construction, j'ai une obsession de me dire que ce secteur peut faire mieux et peut faire mieux de manière très concrète avec des solutions très concrètes, très tangibles, pas du déclaratif mais du concret. Donc c'est quelque chose qui me motive, pas ça m'obsède, mais qui me motive énormément de contribuer à améliorer. Et ça fera partie de ce que Barthes vient de dire, d'aller vers un mieux pour notre société si on remonte un peu avec une vue plus hélicoptère.
Alors, est-ce que selon vous, dans 10 ans, le secteur de la construction sera entièrement durable et circulaire ?
J'en rêverais. Concrètement, je pense qu'avec les objectifs qu'on a, les 50% de réduction en 2030 et puis neutre en 2050, je suis optimiste, je ne suis pas naïf. Je crois que je veux qu'on aille vers ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont en marche. Il y a plein d'acteurs qui ont pris conscience des enjeux. Est-ce qu'on sera parfait dans 10 ans ? Je ne pense pas. Mais par contre, je pense qu'on peut tracer la voie avec des initiatives. Et quand on est ambitieux, quand on met la barre haute, au moins on monte, on s'améliore. Et la vision, c'est que ça va aller vraiment vers un mieux. Le secteur est en train de bouger, mais il ne sera pas parfait dans 10 ans. C'est mon feeling.
Je pense aussi que la transition climatique, elle n'est pas blanc ou noir. C'est pas on l'a réussi ou on l'a raté. C'est il faut faire le maximum. Et se dire on n'arrivera pas aux objectifs doit à aucun moment être une excuse pour arrêter de se retrousser les manches, parce que sinon on va droit dans le mur. Je pense que tous les efforts qui peuvent être faits doivent être faits. Et ce que moi je pense en tout cas, c'est qu'on ne peut pas être la génération qui baisse les bras, quoi. Ça, ce n'est pas possible.
Vous êtes optimiste pour l'avenir quant aux enjeux climatiques ?
Je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais je ne veux pas baisser les bras, en tout cas. Et donc, par utilitarisme, je suis optimiste.
Moi, je suis de nature optimiste, j'ai envie de voir le potentiel de faire mieux, et comme vient de le dire Barthes, vis-à-vis de nos générations suivantes, de faire tout ce qui est possible pour faire mieux.
Si chacun vous aviez une baguette magique, vous en feriez quoi ? Je vous la donne là tout de suite.
Moi, ça va peut-être être une réflexion par rapport à mes expériences, notamment à l'étranger. J'ai vécu en Inde avec des choses qui m'ont marqué. Ce serait au niveau social de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité. Je pense qu'une de nos menaces, c'est ces inégalités qui se forment un peu partout à l'échelle mondiale, mais au sein même d'un pays. Bon, j'ai été en France au moment de la crise des Gilets jaunes. Je pense que c'est l'apéritif de problèmes qu'on peut avoir de plus en plus par ailleurs. Et donc, en fait, réduire les inégalités dans le monde, ça paraît un petit peu rêveux, mais voilà. Je suis avec ma baguette magique, avec des rêves de ce type-là, oui.
Et toi ?
C'est une question difficile.
Je sais. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier ?
Je pense que moi, ce serait de permettre qu'il y ait plus de bienveillance et de confiance entre les gens. Et ça se passe à toutes les échelles, bien sûr, à l'échelle macro-politique, mais aussi à l'échelle très concrète. On voit dans des projets sur lesquels on travaille, que c'est le manque de confiance entre l'architecte et l'entrepreneur qui fait qu'on n'ose pas travailler autrement, que c'est le client a peur de se faire arnaquer, donc n'ose pas sortir des sentiers battus. Je pense que si on pouvait tous se faire confiance les uns les autres en partant du postulat qu'on est tous bienveillants les uns pour les autres, on arriverait plus facilement à changer nos logiciels et donc aller vers un autre monde.
Alors, j'ai deux questions pour vous, pour clôturer doucement notre échange. Deux questions que je pose toujours aux invités du podcast. Alors, soit vous répondez chacun à une ou chacun comme vous voulez. Est-ce que vous auriez, vous, comme conseil aux auditeurs, aux auditrices, pour avoir de l'impact avec leur business ?
je vais me lancer, et c'est ma réponse, c'est de se lancer, parce que ça fait 3 ans que j'avais envie d'avoir de l'impact, 3 ans que je réfléchissais. Hein. Barthe a été un élément déclencheur pour me faire sauter. Mais c'est que c'est merveilleux de faire les choses qui nous animent complètement. Et donc de se lancer, quand on a un projet à impact, d'y aller, d'aller le tester, faire tester, parce que c'est extrêmement énergisant. Ça rend la vie belle.
Oui, et en même temps, ça peut paraître paradoxal, mais pas en faire une obsession, parce que je crois que l'impact peut être le quoi, comme dans un projet comme Coliseum, mais l'impact peut être aussi dans le comment. Et on parlait d'exquis tout à l'heure, bah, a priori, vendre des sandwichs, c'est pas une manière d'avoir de l'impact. Par contre, créer une entreprise qui agit autrement que les autres, ou Veja avec les baskets, hein, y en a plein. On peut faire un business au fond assez traditionnel, mais décider de le faire autrement pour que cette activité-là soit plus vertueuse.
Est-ce que vous auriez un livre ou un podcast, je ne sais pas si vous écoutez des podcasts, ou des conférences que vous avez donc vues, lues, entendues récemment, qui vous ont marqué dans votre réflexion, que vous pourriez nous partager?
Moi, j'hésite à le dire, ça va faire très, très snob, mais un livre que je continue à trouver complètement extraordinaire pour ces questions d'inégalité sociale et tout dont tu parlais, c'est Les Misérables de Victor Hugo, qui est une radiographie de la société, des inégalités qu'il comporte et de la manière dont les strates qu'on a créées nous suivent toute la vie. Jean Valjean a beau être le type le plus sympa du monde, son passé lui revient à la figure en permanence. Je trouve que c'est très inspirant et ça nous montre qu'on doit accepter de casser changer le logiciel pour faire naître un monde meilleur.
Moi, je vais faire référence à une BD que Barthes m'avait offert, Un monde sans fin, Giancovici, qui vulgarise tellement bien un peu l'évolution de notre société en disant chaque être humain a l'équivalent de 200 esclaves à son service en utilisant des machines. Aujourd'hui, ça nous paraît une évidence. On est en haut d'un immeuble, on utilise une grue, on se déplace en avion. Mais en fait, c'est l'équivalent de 200 personnes. Pour donner un exemple, mais donc ça vulgarise très bien l'évolution de vers où on a été depuis 80 ans environ.
Et l'ère industrielle,
voilà, et ça m'a assez fort marqué, effectivement.
On l'a testé dans notre chair d'ailleurs, parce que sur un chantier, on a eu une grue pour descendre les marchandises, la grue n'a pas pu venir pour des questions d'autorisation, on a dû tout descendre à la main vers l'escalier.
Bah, tu l'as senti chien,
on a senti les 200 esclaves que la grue remplace.
Alors forcément, comment est-ce qu'on peut vous suivre, vous contacter, vous avez un site internet, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux, puis qui est-ce qu'on contacte aussi si quelqu'un a peut-être des matériaux, ou s'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans la construction, voilà, comment est-ce que ça se passe?
Le plus simple, on a une adresse email globale qu'on lit tous les deux, qui est info@coliseum.build, B-U-I-L-D, comme construire en anglais. Ça c'est le plus simple. Sinon on est un peu sur les réseaux, un peu sur LinkedIn, mais je dois bien avouer qu'on préfère consacrer notre énergie à satisfaire nos clients, donc on n'y est pas beaucoup. Et on a un site web qui explique de manière, j'espère, la plus claire possible ce qu'on fait. Et c'est www.coliseum.build.
Ok, top. Merci beaucoup. Je mettrai ça.
Via Stéphanie.
Oui, hein, ou parce que je dis, si on met, parce que quand je cherchais pour Coliseum sur Google.
Ouais,
On ne tombe évidemment pas
non,
sur.
Mais
c'est un très bon nom.
C'est
un très bon nom, ceci dit.
Alors, Stéphanie, donc, a le numéro de portable. S'il y a quelque chose de vraiment intéressant, demandez-lui et elle fera le fil.
Voilà. Merci beaucoup. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci pour votre partage.
Un grand merci, Stéphanie.
Merci beaucoup à toi. C'est un très bon moment.
C'est un sujet passionnant, urgent aussi. Et vous faites partie de la solution. C'est très, très énergisant toujours de voir ceux qui construisent le futur. Donc, merci à vous.
J'aime bien ce que tu dis, pardon, et ce sera peut-être mon mot de la fin, c'est que tu dis c'est urgent. On insiste beaucoup auprès de nos clients sur le fait que c'est effectivement urgent. Ce qu'on propose est évidemment pas parfait. Il y a des tas de moments où c'est compliqué, on trouve pas, la logistique est complexe et tout, mais on n'a pas les moyens d'attendre. Et de toute façon, si on ne fait pas, on n'apprendra jamais. Donc commençons tout de suite, des choses simples, on monte petit à petit en compétences et en puissance, et on s'en sortira.
Merci.
Merci.
Et que tout se passe bien surtout. Merci à vous.
Merci.
Voilà pour l'épisode du jour. C'était Business Impact, le podcast de Smarto Circle. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si c'est sur Apple Podcast, prenez 2 millisecondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast. Ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis surtout de faire connaître davantage le podcast. Alors aussi, si vous allez sur le site de smarttocircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smarttocircle. Et puis pour finir, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smarttocircle se fera plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.